Bah, en fait, ça se gagne, autonomie, pour moi. C'est, et d'ailleurs, en fait, je vois bien maintenant, en tant qu'associé vis-à-vis de mes collaborateurs, je donne d'autant plus de l'autonomie que la personne en réclame, en réalité. Donc je trouve que c'est quelque chose en fait qui est bilatéral, c'est-à-dire que c'est pas que à l'associé de décider que la personne doit avoir de l'autonomie, c'est à la personne aussi de décider qu'elle est digne d'en avoir, et les deux comptent autant finalement. Et donc si en fait en tant que collaborateur, presque quel que soit ton âge, tu te poses en tant que quelqu'un qui mérite cette autonomie, en général, on va te la donner, bien souvent en tout cas. Enfin, en tout cas, si l'associé voilà, est normalement constitué. Et ça, je trouve ça très important. Et c'est clair que j'ai eu ce sentiment, moi, tout de suite, ici. Mais aussi parce que les gens... Y a aussi quelque chose qui m'a séduit, moi, immédiatement, dans le profil des avocats dans notre cabinet. C'est l'agilité dont ils faisaient preuve. En fait, j'ai très vite beaucoup appris auprès de gens qui avaient quand même, voilà, qui étaient très expérimentés, et qui ont connu une période où peut-être on était moins spécialisés, enfin en tout cas la profession était moins spécialisée, donc ils avaient cette agilité qui fait défaut un peu parfois à notre génération, à nous, et puis alors à celle qui vient derrière encore plus. Tu vois, des avocats de plein exercice, comme on dit, qui ont pas peur des choses, qui vont pas se réfugier derrière leurs petits doigts, qui ont du courage vis-à-vis de leurs clients. Alors, ce qui veut pas dire d'ailleurs, tu vois, qu'ils vont conseiller dans des domaines qui sont pas les leurs ou qu'ils ne connaissent pas, hein. Bien évidemment, connaître ses limites, c'est un des points les plus importants, en fait, en tant qu'avocat. Ses limites de connaissances et de compétences. Mais, voilà, des gens qui n'ont pas peur. Et du coup, qui n'ont pas peur de rendre responsable leurs collaborateurs, tu vois. Quelque part, en fait, ça rejaillit sur ta psychologie en tant que collaborateur. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux à l'époque quand je suis arrivé ici et que j'ai trouvé immédiatement très agréable. Et cette culture-là, je crois qu'on l'a gardée.
Comment est-ce que, tu vois, d'un point de vue un peu pragmatique, est-ce que tu te souviens de comment est-ce que ça se matérialise ? J'ai envie de dire comment est-ce que ça se matérialisait ? Peut-être que... Mais est-ce que c'est la manière dont on te laissait interagir avec les clients ? Est-ce que c'est tu vois, à quel point c'était très resserré en termes de relecture ou justement pas si resserré que ça ? Enfin, que c'était plus...
Oui, les deux sont vrais.
Sur ta demande, tu vois, c'était...
Les deux exemples que tu as donnés sont vrais. Alors, me concernant, après, c'est difficile. Bon, on n'échappe pas chez nous à la diversité, si tu veux, de comportements, de modes de fonctionnement, d'une équipe à l'autre, d'un associé à l'autre, hein, bien évidemment. Mais moi, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai été élevé ici, avec l'associé avec lequel je travaille principalement, donc Pierre Lubé, clairement. Donc c'est oui, il y a un mélange des deux, rapport au client, rapport direct au client, oui. Pas de redrafting pour le redrafting, typiquement. Ça, c'est quelque chose aussi que j'essaye de conserver, moi, dans mon rapport aux collaborateurs. C'est parfois, d'ailleurs, tu as besoin de faire un effort, d'ailleurs, parfois, pour faire ça. Mais il faut se dire toujours, à mon sens, c'est vraiment même du bon sens, à vrai dire, ouais. Tu donnes la même chose à rédiger à 10 personnes différentes, t'auras 10 résultats différents. Tu peux tourner le problème dans tous les sens. C'est une réalité absolue. Et donc, de deux choses l'une, en tant qu'associé, soit tu te dis que sur les 10 façons de le rédiger, il n'y en avait vraiment qu'une seule de bonne, c'est celle que tu aurais adoptée toi, auquel cas, en fait, tu te pourris la vie à longueur de journée à reformuler tout ce que font les gens qui travaillent avec toi. Et en fait, ce faisant, tu ne te simplifies vraiment pas du tout la tâche. Soit tu acceptes une bonne fois pour toutes que sur les diversions, il y en a peut-être 5 qui sont meilleurs, mais les 5 autres sont quand même acceptables malgré tout, et que voilà, tu comprends l'idée. Et donc je trouve que, en tout cas moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune et ce que j'essaie de reproduire aujourd'hui. Ouais, de prendre du recul par rapport à ça, pas faire du rewarding pour du rewarding, par exemple, je trouve ça c'est terrible, ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est pas au service du client. C'est pour service de toi, ta vie d'associé, parce que du coup, elle est plus compliquée, objectivement. Et en plus, c'est pas une bonne façon, à mon avis, d'autonomiser et de responsabiliser ton collaborateur.
On va dire, dans ce développement, donc il y a, t'arrives, bon, on donne des responsabilités, tout ça. En tout cas, tu les prends. Comment est-ce que t'as évolué?
Je crois que ça se fait un peu mécaniquement. Ça dépend beaucoup de ta personnalité, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont plus affirmés plus vite, je pense. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis très sûr de moi à la base, donc J'avais besoin en fait d'avoir du confort en termes de connaissances, de recul, d'expérience pour gagner en fait en autonomie et en assurance. Et c'est vrai que c'est un métier où en réalité tu évolues, si tout se passe bien, plutôt vite. C'est-à-dire que tu progresses vite. Enfin, en tout cas, c'est en général. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu, il y a trois phases d'ailleurs dans le métier. T'as les tout débuts où t'es collaborateur junior et en gros tout te paraît une montagne parce que tout est nouveau, tout te paraît compliqué. Souvent d'ailleurs tu l'as jamais fait encore, donc c'est normal hein, que ce soit compliqué. Bref, tout te paraît une montagne. Et puis assez rapidement finalement, encore une fois si tout se passe bien, à 3-4 ans d'expérience, globalement t'as compris ce qu'on attendait de toi, tu sais à peu près. Comment rédiger quoi, à qui, t'adapter à ton interlocuteur selon les différents types de clients, mettre les précautions de langage qui conviennent. Bref, t'as normalement assimilé tout ça et en gros, t'as une zone un peu de confort là comme ça, bon an, mal an, ça peut dépendre des gens, mais la quatrième année et puis la 6-7e année où finalement, tu te sens fort quoi. Et puis ensuite, c'est pas que tu te sens plus faible, c'est qu'arrive en fait une phase où tu croyais avoir passé le plus dur. Et en réalité, je dirais pas que le plus dur est à venir, mais en tout cas, il y a une autre problématique qui se pose, qui est celle de la pérennité de ta situation de collaborateur, ton avenir éventuellement en tant qu'associé, bien qu'à mon avis, on peut très bien vivre toute une vie d'avocat sans être associé, en étant tout à fait heureux et en servant la structure au mieux. On y reviendra si tu veux, mais je trouve qu'il y a un peu des idées reçues là-dessus. On n'a pas de date de péremption en tant que collaborateur, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, voilà, il se pose forcément cette question à un moment donné, quand tu deviens un peu senior, de voilà, où est-ce que je vais derrière. Et ça, cette phase-là, elle est pas facile. Elle est vraiment pas facile. Et je trouve que c'est là, d'ailleurs, que les gens ont probablement le plus besoin d'être accompagnés, probablement. Mais voilà, après, si tout se passe bien, que tu as la volonté, que tu bosses beaucoup, parce que quand même, rien n'arrive. Comme ça, hein, ça c'est sûr, tout rôti dans le bec. Tu bosses beaucoup et puis que t'intègres assez tôt et le plus tôt possible, je dirais, la dimension un peu commerciale, même beaucoup commerciale de notre métier. Tout se passe bien.
Toi, tu l'as ressenti cette bascule à, on va dire, 4-7 oui. ans. Qu'est-ce qui t'a décoincé, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à passer la marche de ce flottement?
Ma propre volonté, ma propre envie, tu vois, on parlait au début de la discussion de finalité. Moi, j'ai besoin d'une finalité, en fait, pour aimer ce que je fais et avancer. Et ben, je me la suis fixée, voilà, cette finalité. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je dis ça maintenant, comme si ça avait été facile. C'était pas le cas, hein, bien sûr. Mais voilà, à partir du moment où moi, j'ai une finalité, ça m'aide beaucoup.
Et j'imagine que cette finalité, c'était de devenir associé ici.
Oui.
Est-ce que les conditions t'avaient été indiquées clairement? De type, tu seras associé si, en plus de la cooptation, on va dire l'accord des associés, tu vois, des choses comme ça?
Disons que ça a évolué avec le temps, mais parce que notre cabinet est encore jeune et que, il y a des choses qui évoluent dans nos process au fur et à mesure du temps. Donc, les conditions qui m'ont été appliquées à l'époque étaient pas nécessairement les mêmes que celles qu'on a pu connaître d'autres avant et pas forcément les mêmes d'ailleurs que celles qu'on applique maintenant. Mais ça, c'est la vie d'une structure, c'est assez naturel et,
ouais, ouais.
Et c'est plutôt normal. Après, bon an, mal an, tu retrouves les fondamentaux. Hein. Normalement, l'expertise technique est un prérequis. La capacité, à tout le moins, d'offrir des perspectives de développement, si ce n'est un développement existant. Et puis, évidemment, après, il y a un aspect un peu plus intuitif, personnel, qui fait que tu vas essayer de te projeter avec la personne potentiellement pendant plusieurs années autour de la même table.
Non, mais je dis ça parce que tu vois, sur les aspects développement, je trouve que c'est assez commun que les collaborateurs, en fait, ce soit pas si clair pour eux ce qui est vraiment attendu d'eux. Tu vois, récemment, ma dernière promotion de ma formation « Développer sa clientèle », j'avais un potentiel client, enfin quelqu'un qui était sur le point de s'inscrire dans la formation. Et c'est, enfin moi, je sélectionne, j'ai le luxe de pouvoir sélectionner mes clients dans ma formation. Et donc, je l'avais eu au téléphone, on avait un petit peu parlé de son projet et tout. Et il m'a dit, bon, écoute, juste avant de confirmer, je vais quand même en parler avec mes associés, mon cabinet, puisque c'est quelque chose que je fais dans la perspective de m'associer dans mon cabinet. Il faut que je monte d'un cran là sur les aspects de développement et de biz dev. Donc, potentiellement, le cabinet va financer ou finance en partie. Donc, je voudrais juste checker avec eux. Et en fait, le cabinet lui a dit « Ah, mais en fait, on n'attend pas du tout de toi que tu génères du nouveau chiffre d'affaires. On a surtout besoin de pouvoir te confier tout un portefeuille client et de dossier. Et en fait, ton job, ce sera ça. » Et du coup, j'étais en mode « Ah, bah donc j'avais pas du tout compris. J'avais pas du tout compris le deal de cette association. » Je sais plus s'il était déjà jeune associé et que du coup, il était un peu dans la période où il faut qu'il crante ou si c'était pour devenir associé. Et j'avais trouvé ça intéressant de constater à quel point il y avait entre guillemets un décalage entre ce qu'il pensait devoir investir comme énergie pour continuer à se développer dans son cabinet versus ce que le cabinet attendait vraiment de lui. Et donc, voilà, d'où la question que je te pose, parce que dans les évolutions, tu vois, en interne, bah, mine de rien, ça, toi, tu vas pas t'investir de la même manière dans un cas ou dans l'autre, quoi. Quand on te dit, bah, globalement, tu récupères tel compte et tel truc et tel machin. C'est pas que tu fais pas les mêmes efforts, c'est d'autres efforts, tu vois. Mais
c'est assez rare aujourd'hui,
c'est
ça.
C'est pas chasseur, quoi.
C'est assez rare aujourd'hui, ce genre de schéma. Tu peux avoir des cabinets, en effet, qui tiennent ce genre de discours encore, mais c'est relativement rare. Et nous, l'esprit, tu vois, ici, c'est quand même que les gens génèrent aussi par eux-mêmes, hein, clairement.